Allez, mon petit bonhomme.
Voilà, donc pour Tribune Foot et la section foot de Coignières. Alors, on est ravis en tout cas de les accueillir. On aime comme ça commenter l'actualité du foot. On l'avait fait avec la société web spécialisée dans le foot Servan-Lai. On a eu le club de foot de Villepreux il y a 15 jours. On a eu aussi donc l'association Paris Banlieue Sud la semaine dernière. Et là, donc ravis d'accueillir un club de foot qui renaît, j'allais dire en quelque sorte, le club de Coignières, emmené donc par son directeur sportif. C'est Dar Karim, bonjour. Karim, il y a 2 ans, on avait téléphoné pour recevoir le club de foot de Coignières. On nous avait dit, il n'y a plus de club de foot sur Coignières, c'est terminé. Vous avez remonté, vous avez décidé de remonter le club avec vos collègues.
Alors effectivement, depuis la saison dernière, moi je suis revenu donc sur le club du FC Coignières, mm-hmm. et pour restructurer, remonter effectivement ce club qui avait, suite à de différentes difficultés, coulé un petit peu. Mm-hmm. Effectivement, depuis 2 ans, il y a une nouvelle équipe qui est en place avec un nouveau bureau et donc des nouveaux adhérents pour la plupart. Et donc ça remonte très bien, notamment au niveau des effectifs, puisqu'on arrive aujourd'hui à 200 adhérents.
D'accord. Pourquoi ce club avait coulé ? Comment on peut l'expliquer ? Parce que Coignières, c'est quand même une ville importante. Il y a la ville nouvelle à côté, il y a des clubs avoisinants, des villages pas très loin. Comment on peut expliquer le fait qu'il y ait eu des grosses difficultés pour le foot sur Coignières ?
Oh, je crois que par le passé, par les anciens, ça date de l'historique du club. Alors moi, j'étais pas présent par le passé, mais de l'historique qui en ressort, c'est surtout des erreurs de gestion, des erreurs humaines, des choses un petit peu qui se sont déroulées par le passé, la politique qui était menée par le club dans ces moments-là, qui aujourd'hui a totalement changé. Donc les réels source, je ne saurais pas vous les expliquer.
D'accord. Enfin, vous êtes dans le foot depuis combien de temps ?
Depuis Poussin, donc depuis 7-8 ans. Bah, j'ai joué dans différents clubs, notamment à Trappes, un club voisin.
Mm-hmm. Oui, qu'on a vu il y a, je crois, un an et demi à ce micro, parce qu'on a eu pratiquement tous les clubs de la région. Et vous avez comme ça décidé un jour de dire, tiens, je vais relancer le foot à Coignières. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de foot à Coignières.
Non, tout simplement, moi j'ai passé différents diplômes dans ce milieu-là. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un brevet d'État, d'entraîneur de football, d'éducateur sportif. Mm-hmm. Et suite à effectivement une reconversion, parce qu'on est joueur, mais pas éternellement.
Bah oui,
donc
bah
à un moment
oui.
donné, on a envie de rester baigné dans le milieu du football, et c'était mon cas. Et aujourd'hui, c'est une forme de reconversion un petit peu en tant qu'entraîneur.
Alors, vous vous êtes lancé dans ce fou défi de relancer le foot sur Coignières avec des copains aussi, Daniel Belkacer. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Belbachir.
Belacer, pardon. Voilà. J'ai mal écrit, j'écris mal, j'arrive pas à me relire. Voilà. Éducateur donc des moins de 13 ans, filles et garçons, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Depuis combien de temps dans le foot, Daniel ?
Oh là, moi tout petit aussi, j'ai commencé en débutant.
Ouais.
Et puis.
Dans le coin aussi, dans la région
ou... Non, pas du tout, non. J'étais dans le sud de la France.
D'accord, dans le sud de la France, faut pas aller bien dans l'axe du micro. Oui, donc dans le sud de la France, donc quand Karim est venu vous chercher, vous avez dit ok, je me lance moi aussi dans l'aventure.
Bah écoutez, c'est simple, j'ai son discours, j'ai adhéré tout de suite.
Ouais.
On a la même philosophie du football, le respect, le plaisir. La progression, donc voilà, ça s'est fait tout seul.
Très bien, donc vous êtes éducateur des moins de 13 ans, filles et garçons, vous nous parlerez de votre rôle d'éducateur, rôle ô combien est important.
Oui.
Et pas toujours facile.
Non.
Très bien, et puis Mohamed Djerdoubi, c'est ça ? Mohamed ?
C'est ça, oui, absolument.
Voilà. Alors vous êtes vice-président, vous aussi, vous avez tout de suite adhéré au projet de Karim.
Bah, disons qu'avec Karim, on se connaît depuis très
d'accord.
longtemps.
Donc ça aide.
Ça aide. Et oui, à partir du moment où j'ai tout de suite adhéré à son discours, un peu comme Daniel. Mm-hmm. Donc après, c'est la passion du foot qui nous réunit aussi.
Et vous venez d'où, Mohamed?
Moi, je viens de Fontenay-le-Fleury.
C'est pas loin, alors.
Ouais, j'ai joué à Fontenay-le-Fleury toute ma carrière, d'ailleurs. Et puis là, maintenant, à Coignières.
Très bien. Alors, vous êtes une équipe de combien donc actuellement à Coignières, c'est un club qui a combien de licenciés ? Donc, qui s'est relancé il y a 2 ans, c'est ça ?
C'est ça, absolument. Il y a à peu près 200 adhérents et 166 licenciés.
Ah, quand même, 166 ouais. licenciés. Alors, vos joueurs et joueuses, ils viennent d'où ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a quand même des clubs de foot un peu partout. Il y en a. Vous êtes. Vous êtes à proximité entre la ville nouvelle et puis le foot des villages, avec le Perret, les Essert-le-Roi qui sont pas loin. C'est encore le foot des villages. Et puis ensuite tous les clubs de la ville nouvelle, à Montigny, donc Trappes-Saint-Quentin, Élancourt, voisin le Bretonneux. Donc tout ça, c'est un avantage, un désavantage, parce qu'il y a de la concurrence quelque part.
Il y a de la concurrence, après c'est tout dépend du club, comment il est géré, de l'image qu'il a, etc. C'est vrai que la majeure partie des licenciés sont essentiellement des Coignariens.
D'accord.
Ensuite, effectivement, il y a pas mal de joueurs qui viennent de Trappes, qui viennent de, d'un peu partout, de Montigny, des
Lancours. Restez bien dans l'axe du micro, il y a des petites variantes sinon. Voilà.
D'accord.
Hein, voilà. Oui, donc ça vient
donc,
de...
Oui, effectivement, la majorité des joueurs viennent de Coignières. Il y en a aussi des villes avoisinantes, mais après, la majeure partie vient de Coignières et on veut que ce soit des gens de Coignières qui viennent avant tout, les jeunes, mais on refuse pas la porte aux autres.
D'accord. Façon. Alors, quand vous avez relancé Karim le foot sur Coignières, il a fallu naturellement prospecter.
Prospecter, alors oui, non, tout d'abord il y avait une équipe qui était en place, qui avait une politique qui voulait ceux qui ont réellement relancé le club. Moi je suis venu les rejoindre, notamment le président, la vice-présidente qui était en place. Et aujourd'hui ils ont voulu relancer ce club avec une nouvelle politique. Et effectivement, moi je suis venu me greffer et de là on a relancé le club et naturellement. L'année dernière, pour vous donner un exemple, on a démarré avec 7 débutants, effectivement, suite à l'historique qui était en place par le passé. Et donc, pas une très bonne réputation, les parents avaient du mal à confier leurs enfants. Bah oui. Donc on avait 7 débutants inscrits. Pour vous donner un ordre d'idée, les clubs avoisinants comme Morpa, comme Trappes, etc., que vous citiez, sont à 120 débutants à peu près. Donc effectivement, nous on est une petite ville Coignières de 4500 habitants. Ce qui n'empêche, on n'avait que 7 débutants. Cette année, puisqu'effectivement on a une politique qui est axée aussi sur l'école de foot et c'est une des priorités, le développement de l'école de foot et la bonne tenue de cette école de foot. Effectivement aujourd'hui on se retrouve avec, on a triplé les effectifs au niveau des débutants pour cette année sur l'autre.
C'est bien.
Donc c'est encourageant et on a envie de continuer sur ce... vraiment continuer sur cette dynamique. Hein. C'est important et de mettre en place un peu comme disait Daniel il y a un instant... des valeurs très importantes que sont le respect, que sont effectivement des horaires, de l'arbitre, de son partenaire, des adversaires, savoir gagner, savoir perdre, etc. Donc et de là, on va essayer de construire, et donc on part pour ça de la base, et donc l'école de foot.
Donc, vous l'avez dit, pratiquement tout le monde vient de Coignières. Il y en a qui viennent quand même d'un peu plus loin.
On a quelques voisins aussi. Hein. Ouais, on a des jeunes qui viennent fatalement. De Morpa, on a des jeunes qui viennent d'Élancourt, de Trappes, effectivement, on a des jeunes qui... Parce qu'effectivement, le fait que... on citait les clubs voisins donc qui se retrouvent avec 120 débutants. En même temps, c'est beaucoup. Le parent qui vient confier son enfant ou là où il y en a déjà 120, ils sont sur un terrain le mercredi après-midi, voire deux terrains. Ils n'ont pas le même travail en répétition ou le plaisir convivial ou restreint qu'on peut avoir à Coignières. Parce qu'effectivement, quand on a 15, on peut travailler dans de meilleures conditions, etc.
Voilà. Ça représente combien donc d'équipes engagées dans les différents championnats ?
Donc on a 10 équipes engagées dans les différents championnats.
Ah, c'est bien quand même. Ouais, donc ça va des équipes de toutes jeunes, hein,
ça va des débutants. Donc des débutants jusqu'aux seniors.
Seniors, il n'y a pas encore de vétérans ?
Non, il y avait une équipe par le passé qui s'est dissoute il y a quelques années et depuis, pas encore. Mais la génération qui est là en senior, on les gardera pour qu'ils soient vétérans encore.
Mohamed, vous recrutez, on peut venir vous rejoindre. Cette fois-ci, vous allez changer de micro, ça marche un peu
j'espère
mieux.
J'espère qu'il fonctionne mieux.
C'est impeccable, là. On nous entend mieux. Voilà. Donc, on peut venir vous recruter ou alors, c'est fini, c'est clos, vous n'avez pas les moyens d'accueillir davantage de joueurs.
Alors non, on clôture pas du tout les recrutements. Celui qui veut prendre du plaisir à jouer au football dans un esprit convivial est le bienvenu. De toute façon, on n'a pas de... dans notre optique, on n'est pas bloqué par tel ou tel challenge. C'est sûr qu'on a des objectifs, mais avant tout, c'est de jouer au foot et le plaisir de jouer au foot entre copains, de toute manière.
Il y a une catégorie d'âge où il manque peut-être un peu plus de monde que d'autres. Bon, on a parlé des vétérans, mais bon, il n'y a pas que les vétérans. Les jeunes, par exemple, il y a des clubs qui, des fois, ont des tranches d'âge où ils ont un peu plus de mal à trouver du monde.
Disons qu'effectivement, pour un renouvellement
périodique de toutes les catégories, je dirais qu'on a besoin de tout le monde, de toute façon. Ça peut aller des débutants, garçons et filles, hein, de toutes les manières. Débutants, poussins, benjamin, 13, 15, 18, seniors, on a besoin de tout le monde, de toute façon. Celui qui veut venir jouer au foot, pratiquer le football dans un esprit serein, est le bienvenu.
D'accord, donc...
filles et garçons, je le répète.
Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils viennent
au stade de foot de Coignières, il y a un endroit particulier, il y a un site internet, vous avez un site internet, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font?
Alors, il y a plusieurs moyens. Ils peuvent venir se déplacer à Coignières aux heures d'entraînement. Mm-hmm. Donc, je le rappelle, c'est le mardi soir, le mercredi toute la journée, le jeudi soir et le vendredi soir.
À l'espace Alphonse Daudet.
Faut parler en face du micro.
C'est à l'espace Alphonse Daudet, rue du Moulin avant à Coignières.
D'accord.
Sinon, il y a un téléphone aussi où ils peuvent nous joindre. C'est le 01 30 49 91 47, je crois.
D'accord. Donc 30 49 91 47.
Pour être plus sûr, consultez les pages jaunes. Sinon, on a aussi un site internet.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a juste à taper sur en recherche de Google le FCC 78. Et là, c'est la première ligne, c'est le site direct.
D'accord. Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation?
Alors, pour les 18 ans et senior, c'est 110 euros. Uh-huh. Karim pourra me reprendre. Pour les 15 ans et 13 ans, c'est 90 euros. Mmh. Et pour les débutants poussins, benjamin, donc l'école de foot, et les 13 ans, c'est 70 euros,
c'est ça, pour l'école de foot.
Ouais. Et pourquoi il y a des variantes comme ça au niveau des tarifs? Parce que souvent, c'est unique dans les clubs.
Vous avez cette variante là plus vous allez, en fait tout est une question de logistique et puis
parce que c'est une question que je pose parce que les parents qui nous écoutent doivent se la poser, quoi.
Alors, derrière le poste, les licences au niveau du district sont pas forcément le même tarif selon les catégories d'âge. Donc vous avez pour l'école de foot et les 13 ans, les licences qu'on paye nous de notre côté chez au district sont moins élevées qu'une licence qu'on achète pour les seniors par exemple.
Mm-hmm,
donc ça entre en compte dans la tarification.
Mm-hmm.
En même temps, à titre de comparaison, vous avez d'autres clubs où c'est un peu plus cher. Après, dans la cotisation de la licence, vous avez tout ce qui entre en jeu, c'est-à-dire la logistique, les différentes amendes pour les différents cartons quand il y en a, parce que le football, on est souvent averti aussi.
Et puis chez les grands, il y a un arbitre officiel qu'on rémunère, qu'il n'y a pas chez les petits.
Oui, c'est un problème, ça.
Dans le prix de la licence, nous, donc, on comprend l'équipement, hein, pour les joueurs. Donc c'est important aussi, on leur fournit donc un sac, un caouet, une paire de chaussettes, c'est important.
C'est une question que j'allais poser, finalement il n'y a que la paire de chaussures qui est à la charge du pratiquant.
Voilà, donc la paire de chaussures, la paire de protège-tibia, et son équipement pour l'entraînement. Autrement, nous on prend en charge le reste, il n'y a aucun problème.
La couleur des maillots, c'est quoi?
Alors c'est nouveau justement depuis deux ans.
C'est intéressant, c'est important la couleur des maillots.
Depuis deux ans, nous sommes en orange et noir.
Voilà. Orange et noir, d'accord.
Un peu comme les merlus de l'Orient.
Oui, j'allais vous dire. C'était des couleurs que vous avez choisies ou c'était lié à une histoire particulière?
À l'origine, c'est un peu les couleurs du club. Donc, on avait souvent l'habitude de voir jouer Croignières en bleu, je crois, et en jaune.
Mm-hmm.
Mais depuis les nouveaux membres, on a décidé d'axer vraiment sur la politique de la ville aussi. Donc, et les couleurs de la ville sont orange et noir.
Ouais, FCC 78, là, c'est bien.
Ouais, ça claque un peu.
Club de Croignières 78, voilà. Donc on a dit des créneaux d'entraînement pratiquement tous les soirs de la semaine.
Sauf le lundi.
Oui,
je crois, ouais.
C'est un jour de repos pour le ballon. Hein.
Oui, on va mettre une section justement le lundi foot loisir.
Oui, d'accord. Voilà. Là, ça peut intéresser aussi, c'est une bonne idée ça. Ça peut permettre à certains de pouvoir ensuite franchir un pas.
Exactement. Mm-hmm. Exactement, c'est aussi l'objectif. Ouais.
Mm-hmm. D'accord. Donc, vos ambitions dans cette saison au niveau sportif, au niveau des championnats, c'est la remontée, c'est une équipe plus particulièrement qu'une autre qu'on va cibler pour avoir des bons résultats?
Alors, on n'a pas vraiment d'une équipe type ou favorite dans tout le club. C'est sûr que l'idéal, ce serait de voir monter toutes les équipes et les catégories en division supérieure. Maintenant, avant tout, je vous le disais en début, c'est vraiment prendre du plaisir, jouer au foot dans
c'est
un
bien,
esprit
bien,
sain.
Bien notion,
et surtout à l'image des plus, enfin qu'on essaie d'inculquer aux plus jeunes à l'école de foot, donc vraiment prendre du plaisir, s'amuser et dans le respect des règles du jeu, de la structure, des encadrants, de tous les gens qui sont là pour diriger, pour encadrer et pour qui sont là aussi pour les aider à évoluer dans le football et progresser aussi.
Ouais, vous êtes combien dans l'équipe dirigeante? Parce que malheureusement le bénévolat, beaucoup de clubs sportifs se plaignent de manquer de bénévoles. Vous aussi c'est le cas?
Oui, de toute façon on manquera toujours de bénévoles. Plus on en a, plus on en voudrait. Maintenant, effectivement, au club, au niveau du bureau, donc entre le président, vice-président, secrétaire, trésorier et les adjoints, on est 6, il me semble. Ensuite, dans les éducateurs, il y a...
On est 6, plus... nous sommes 6, plus 4 aides éducateurs.
Voilà. D'accord.
Et ensuite, après, pour les dirigeants...
Et un entraîneur gardien, excusez-moi. Il y a un entraîneur gardien qui est nouveau de cette année, donc on a mis une séance en place pour les gardiens de but.
Ah d'accord, bah, oui, ça se fait. À Brissimour, il y a aussi une particularité, ça se fait aussi à Coignières, une époque de gardien de but.
Exactement, on essaie de construire vraiment, on essaie vraiment de mettre en place des bases vraiment sur toutes les catégories, et notamment, là on a mis une séance de gardien de but, on essaie de pérenniser, de mettre en place, on a mis une deuxième équipe senior en place cette année, ainsi qu'une équipe féminine, et un des objectifs de cette année, c'est effectivement de pérenniser un petit peu ces équipes.
Alors, valeur d'éducation, puis club formateur, hein, c'est quand même l'objectif de votre club en priorité, comme beaucoup de clubs de foot du coin. Hein.
Exactement. Et au-delà des notions footballistiques, il y a aussi des notions éducatives, des notions mais qui sont liées à l'hygiène, qui sont liées au respect des règles.
Alors justement, d'abord, je le dis souvent, c'est arrivé à l'heure ou aux entraînements. C'est déjà le premier respect qu'on puisse avoir vis-à-vis de son entraîneur et de ses partenaires.
C'est important. C'est important. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que pour inculquer une culture sportive, et notamment footballistique, on met un petit peu de temps. On ne le fait pas sur une saison forcément. Ça s'acquiert sur quelques saisons.
Disons que ce qu'ils
fait un travail de fond avec les jeunes et on espère que ça portera ses fruits.
Disons que ce qu'ils apprennent au Football Club de Coignères et aussi dans d'autres associations, c'est aussi ça leur servira aussi pour plus tard, ne serait-ce qu'à l'école ou dans leur emploi futur.
Celui qui va travailler, il faudra qu'il soit à l'heure.
Voilà, ça passe par
le travail, comme aux entraînements, quoi. Hein, donc
ça passe par certaines règles et notamment la discipline, être à l'heure, se vêtir correctement, etc.
Alors ensuite, il y a naturellement parfois les décisions d'arbitre qu'on peut avoir du mal à digérer. Vous avez une optique particulière, c'est-à-dire qu'on doit accepter telles qu'elles soient les décisions de l'arbitre. Même si c'est dur parfois.
À partir du moment où l'arbitre siffle, la décision est prise, on n'a pas à y revenir. Même si on conteste, on peut contester deux ou trois
jours.
Et
même si l'erreur, elle est immense.
L'erreur est humaine.
Ouais, oui.
À partir du moment où l'arbitre est humain, l'erreur peut être humaine. Après, c'est à nous de prouver par le jeu qu'on va au-delà. C'est dur à inculquer de toute façon, parce que les exemples sont nombreux au niveau professionnel, et c'est vrai qu'on s'identifie souvent à eux.
Voilà.
Mais à partir du moment où une décision d'arbitre, quelle qu'elle soit, est sifflée et est prise en son âme et conscience, parce que l'arbitre est un bénévole aussi, il est là pour le plaisir du foot, pour le plaisir du jeu.
Aussi, parfois des arbitres, il y a un petit manque de formation aussi parfois, d'arbitres bénévoles.
Disons que maintenant, ça a tendance à changer parce que les différents organismes mettent en place des formations, etc. Donc ça les aide aussi beaucoup. Mais maintenant, c'est aussi au club, aux joueurs et aux arbitres d'avancer dans l'esprit du foot.
Vous avez des jeunes qui sont tournés vers l'arbitrage, par exemple. Si certains, on connaît la punition, effectivement, est-ce que on les oblige à arbitrer des matchs pour justement bien les sensibiliser?
Nous, justement, chez nous, ça se fait, et d'autant plus que cette année, on envoyait un nouvel arbitre en stage qui va faire une formation d'arbitre cette année au nom du club et qui représentera le club dans les années à venir. Voilà. Autrement, pour revenir un petit peu sur l'arbitrage, les erreurs d'arbitrage que vous citiez, effectivement, ça peut arriver, parce qu'en plus on se situe dans une division qui est très basse et c'est les premiers niveaux d'arbitrage. Donc c'est leurs premières années, souvent il manque un petit peu d'expérience. Donc c'est plus des erreurs d'incompétence que des erreurs
de malhonnêteté, dirons-nous.
Exactement. Donc à un moment donné, il faut savoir inculquer à nos joueurs qu'effectivement personne n'est à l'abri d'erreurs, et notamment eux qui en font régulièrement sur le terrain. Rater un contrôle, rater un tir, c'est des choses qui arrivent à n'importe qui, même à un niveau professionnel, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne à l'arbitre pour ça, et il faut accepter.
Et comme disait un entraîneur, si on est meilleur, on marque un but plus que l'adversaire, et l'erreur d'arbitrage n'est qu'un détail.
Exactement.
C'est ce que je leur répète.
Ça n'a pas de conséquence sur le match.
Exactement. Exactement.
Ouais.
C'est ce que je leur répète à chaque fois. Je leur dis, si l'arbitre s'est trompé, si on est meilleur que l'adversaire, eh bien on marquera un but de plus et on gagnera.
Ça sera qu'un détail. Après, l'erreur d'arbitrage, ça n'influera pas sur le déroulement de match. Alors, aider aussi les coéquipiers, porter les ballons, ranger les filets, c'est important, c'est aussi dans la vie collective d'un club.
Ah oui, ranger le matériel, ça,
ouais, c'est aussi un problème qu'on rencontre dans les clubs de foot, on s'en va, c'est fini.
Chez nous, c'est les joueurs qui rangent le matériel et ça ne les gêne pas du tout parce qu'ils ont, compris aujourd'hui que c'était leur matériel qu'ils en ont besoin et qu'il faut l'entretenir. Donc, il arrive qu'on casse quelque chose, hein, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Mais on fait attention et c'est les joueurs qui rangent le matériel.
Des travaux d'intérêt généraux dans un club, ça arrive parce qu'il y a des clubs qui organisent des propres travaux d'intérêt généraux. C'est-à-dire que on est de corvée plus qu'un autre.
Là, on parlait du matériel, c'est arrivé l'année dernière pour deux de nos joueurs qu'on avait en 15 ans et qui avaient justement laissé un petit peu le local matériel en champ de foire. Et donc. Et il a fallu, c'est eux qui ont été nommés pour le ranger la fois suivante, tout simplement.
Bon, je suppose que vos déplacements, vous prenez vos propres véhicules, il n'y a pas de car, ça coûte cher pour un club de foot.
Aujourd'hui, on n'a pas le budget pour du tout.
Ouais.
C'est vraiment, on envisage, on essaye, si on a effectivement la possibilité d'avoir des minibus pour le transport, c'est vraiment l'idéal. Aujourd'hui, on en est loin encore. Malheureusement.
Alors Daniel, les moins de 13 ans, garçons, et puis on viendra aux filles après, quelle est la difficulté pour un éducateur?
Alors,
la principale difficulté qu'on rencontre au quotidien, c'est de leur faire accepter ces règles de vie, ces règles du foot.
Tout à fait. En fait, ils sont dans une période qui est pas très 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 favorable pour eux parce qu'ils se cherchent. Et puis bon, y en a qui veulent être rebelles. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus effacés. Donc, il faut leur faire comprendre qu'on est tous ensemble et tous au même niveau. Il y a personne qui est au-dessus, il y a personne qui est en dessous.
Alors, faut faire preuve d'autorité, de psychologie. Faut montrer qu'on est le patron tout en étant très très compréhensif.
Tout à fait. Donc voilà, il faut se faire respecter parce que sinon on se fait vite envahir. Et par contre, il faut être très pédagogue et écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis, on parle pas de la même façon à telle ou telle personne parce qu'ils prennent pas les choses pareil, surtout à cet âge-là.
Et avant un match, vous parlez beaucoup. Vous êtes donc des dirigeants qui venaient beaucoup voir les joueurs. Vous leur parlez avant les matchs ou au contraire, vous les laissez tranquilles?
On fait un peu les deux, donc ils ont un petit moment pour eux. Ils ont un petit moment pour eux pour que justement ils puissent discuter de ce qu'ils veulent à la limite ou de leur manière de se concentrer qui est la leur. Après ça, effectivement, il y a la causerie d'avant-match. Et c'est fait à la fois pour répartir un petit peu les rôles sur le terrain, mais aussi pour les impliquer dans le match à venir. Donc c'est déterminant. Effectivement, c'est des choses qu'on prend. Qui sont vraiment importantes et qu'on n'oublie pas de faire avant chaque match.
Entre nous, il y a des remontées de bretelles parfois.
Effectivement, il y a des moments où il faut leur faire savoir.
Les
quand
murs
des
vestiaires tremblent.
On n'en est pas au séisme. Effectivement, de temps en temps, ils ont besoin de qu'on leur explique vraiment ce qui ne va pas. Donc, il y a toujours des choses qui vont. Dans un match, il y a toujours des éléments positifs à faire ressortir. Heureusement, effectivement. Mais il y a aussi des choses négatives qu'il faut leur faire savoir pour qu'on puisse les rectifier si nécessaire. Donc, et qui sont liées au match, évidemment, que ce soit au niveau technique ou tactique.
Oui, justement. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant dans le football à votre niveau? C'est le côté tactique, le côté physique, technique, c'est un mélange de tout. On dit que maintenant, les entraîneurs sont assez frileux et sont plutôt... tourner sur la défense.
Non, après ça c'est propre à chacun. Hein, mais moi je dirais que les quatre qualités qu'il faut vraiment faire ressortir, c'est comme je pense et qui sont liées à tous les sports, c'est les qualités techniques, tactiques, physiques et mentales. Donc il faut vraiment lier les quatre parce qu'on peut en avoir trois et en oublier une, ça colle pas. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur les quatre. Et donc à partir de là. Jouer défensivement ou jouer offensivement ou étoffer un peu plus son milieu ou ça c'est un choix qui est propre à chaque
entraîneur. En fonction de l'adversaire aussi.
En fonction de l'adversaire, en fonction de la qualité de ses joueurs, de sa propre équipe. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui vont déterminer la composition d'équipe et le choix tactique.
Vous avez lancé le foot sur quoi hier? Vous avez un public de fidèles qui vient vous voir tous les week-ends dans les matchs?
Régulièrement, on a du monde. On a d'abord beaucoup de parents qui sont présents. Et donc, on les encourage à venir encore plus souvent. Et donc, certains aussi qui ne sont pas du tout parents, qui viennent, qui sont de la ville et qui viennent regarder les matchs le week-end. On a de la chance, en plus, depuis la rentrée, là, les week-ends, il fait relativement beau. Mm-hmm. Donc c'est agréable.
Et les parents, est-ce que, allez, entre nous, est-ce que ça pose parfois problème? Parce que je sais qu'il y a des dirigeants de foot, il y a aussi des dirigeants de sport en général qui se plaignent qu'il y a parfois des petits problèmes avec les parents, quoi. On oublie que c'est quand même d'abord l'éducateur et le président qui est pendant quelques heures responsable à travers son club sportif.
Oh, ça arrive que des parents suivent leur enfant de manière intense. Hein, c'est des
ils
choses qui arrivent.
Ils ne remettent pas les choix tactiques quand même.
Non, justement. Bon. Enfin, ouais, ouais. Ça peut leur arriver une fois, mais à la limite, on va leur expliquer effectivement que c'est pas des choses qu'ils n'ont pas à faire ça, qu'ils n'ont pas à intervenir dans ce côté-là.
Mais
à la limite,
trop problème, quoi.
Non, faut qu'ils viennent encourager. Nous, au contraire. Hein, alors qu'ils viennent pour encourager. Ça, on leur dit. Donc, ça nous est arrivé en début d'année. Qu'il y en ait un ou deux qui soient là, crient un petit peu après son enfant, allez, allez, ou après d'autres. Mm-hmm. Bon, ça arrive, hein, on va le voir la première fois et on fait en sorte que ça ne se reproduise pas et qu'ils comprennent pourquoi, surtout.
Mm-hmm. Donc, on fait jouer tout le monde parce qu'il y a aussi des problèmes, c'est aussi un problème beaucoup, souvent sont remplaçants, ne jouent pas beaucoup et finissent par se retourner vers un autre sport. Est-ce que c'est un des problèmes aussi qui.
Alors, nous, la politique, justement, dans les clubs de foot, c'est que tout le monde ait le même temps de jeu. Donc, pour vous donner un exemple, hein, chez les débutants ou chez les poussins, tous les 3-4 minutes, on change. Les joueurs. Ils jouent 4 minutes et il y a une rotation. Chaque fois, il y en a deux qui rentrent toutes les 4 minutes.
Ouais. Voilà. Et puis, à ce stade-là, peut-être qu'on teste les postes. On n'a pas de poste acquis, quoi.
Exactement. Il n'y a rien de déterminé. Ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils peuvent être effectivement à tous les postes. Il y en a qui ne vont peut-être pas continuer le football dans l'avenir. Il y en a qui vont continuer. Il y en a qui vont prendre 1 mètre de hauteur et qui vont prendre 10 cm dans les pieds. Donc, ça change beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, il n'y a rien de déterminé, rien de déterminant. Donc, on les laisse jouer un peu au rôle qu'ils souhaitent.
L'essentiel en tout cas c'est qu'ils en tirent beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices sur un plan personnel pour la suite, hein.
Exactement.
Et qu'ils en gardent des souvenirs merveilleux.
Exactement,
quoi.
C'est aussi une expérience humaine très importante.
Les infrastructures, est-ce qu'elles sont suffisantes par rapport à vos nombres de licenciés, de pratiquants, ou est-ce qu'on peut demander ou réclamer des améliorations?
Ah, bonne question.
Vous êtes là pour ça, il n'y a pas de tabou chez
vous. On va se lâcher alors.
Lâchez-vous.
Non, mais effectivement, au niveau des infrastructures, on ne va pas se plaindre, hein, parce qu'on a effectivement une mairie qui nous suit, une commission des sports qui nous suit, mais qui sait aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à entreprendre au niveau des travaux, notamment au niveau du terrain. Aujourd'hui, nous, on fonctionne avec un seul terrain. Ce n'est pas forcément évident quand on a 10 équipes et qu'on doit tout étaler sur un week-end. C'est pas forcément évident. De la même manière que la surface du terrain, c'est les synthétiques qui sont d'ancienne génération. Mmh. Et donc aujourd'hui, ça représente un 2 mm d'épaisseur. C'est pas forcément l'idéal pour nos joueurs, notamment sur la durée, parce que ça provoque des traumatismes au niveau des articulations ou autres. C'est pas forcément l'idéal sur du long terme. Au-delà de ça, effectivement, on a besoin de refaire un petit peu nos installations.
Bon, c'est améliorer des les tribunes, les vestiaires peut-être.
Le local rangement matériel, on est très limité. C'est des choses où justement, à un moment donné, on est limité. Hein, on a un petit local, et donc on va voir pour faire en sorte d'améliorer un peu tout ça.
Mm-hmm. De toute manière, structurellement.
Le foot va redevenir le sport numéro 1 sur Coignières, ou ça reste le sport numéro 1?
Ben, on espère et on le souhaite. Hein, on souhaite pérenniser un petit peu tout ça et le continuer à l'agrandir un petit peu, cette structure qui est importante sur la ville de Coignières.
Mmh. Bon, c'est vrai qu'il faut voir aussi, il y a beaucoup d'associations, donc on n'essaye pas de prendre la place de telle ou telle association, de tel ou tel sport. Faut avant tout penser aux habitants de Coignières et des environs pour pouvoir pratiquer le sport qu'ils veulent.
Bien sûr. Et quand on est sportif, on aime le sport en général. Hein,
absolument.
Je vous ai vu réagir sur le Tour de France tout à l'heure. Donc.
Voilà, exactement. Donc vous verrez sur notre site du FCC 78, on a un lien, on a des liens pour toutes les associations de la ville qui sont sur notre site. Mmh. Donc effectivement, le sport avant tout, quoi.
Oui, et avec les clubs de la ville nouvelle, c'est vraiment la bataille, c'est la rivalité, ou alors ça reste que du sport, et puis une fois le match terminé, parce qu'il doit y avoir des sacrés derbies parfois.
Ouais, non, c'est vraiment la notion de plaisir, comme disait le vice-président il y a un instant. On n'est pas dans une rivalité pure et dure, au contraire, on se connaît bien. Que ce soit avec les clubs voisins, Elancourt, La Verrière, Trappes, Montigny, Guyancourt. Mm-hmm. On se connaît bien, donc au contraire, c'est un plaisir de se retrouver sur les terrains.
D'accord. Et puis alors, donc, au niveau, on l'a dit, des entraînements, vous comptez peut-être avoir davantage d'infrastructures dans les prochaines années, ce qui va vous permettre peut-être de pouvoir mieux gérer vos entraînements, de pouvoir mieux développer.
Et effectivement, on souhaite développer notre structure, notamment au niveau des entraînements. Ça a déjà été le cas entre la saison dernière et cette année. Les entraînements Poussin et Benjamin, par exemple, ont doublé.
Bah oui, parce que
ils en avaient qu'un l'année dernière, ils en ont deux cette année par semaine. Et on continue à mettre en place. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait mis en place un entraînement pour les gardiens de but. Voilà.
C'est bien,
maintenant,
ça.
À un moment donné, on est aussi limité par les infrastructures. Et donc voilà. On souhaite développer un peu tout ça.
Alors, il y a des féminines aussi, il y a une équipe féminine. Je sais qu'il y a aussi une grosse demande pour le foot féminin. C'est pas évident, hein, parce que parfois ça oblige les filles à aller très loin, pratiquer leur sport favori. Vous êtes combien au niveau des filles sur Coignières?
Alors bon, on a monté une section en moins de 13 ans.
Ah d'accord.
Parce qu'il faut commencer à la base.
Il y avait une très forte demande.
Oui, enfin disons que c'était la volonté du président, du vice-président, enfin du bureau entier, de créer une équipe féminine, une section féminine. Et on a décidé de commencer par le bas.
D'accord.
Donc début septembre, elles étaient deux, maintenant elles sont huit.
Ah oui.
Donc on a engagé une équipe, elles jouent en moins de 13 ans.
Et elles peuvent jouer. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elles peuvent jouer à 7, elles jouent à 7 dans l'équipe.
Voilà, tout à fait. On avait le choix entre 7, 9 ou 11. Et donc on les a inscrits à 7. Et puis elles prennent du plaisir, elles s'amusent, elles sont là à tous les entraînements, me demandent du surplus tout le temps. Et puis elles font ce qu'elles peuvent.
Voilà, donc il y a des jeunes filles qui nous écoutent ce matin. Je sais qu'il y avait une équipe de foot féminin qui va se relancer du côté du Perret. Il y a aussi une équipe de foot à Coignières, donc elles peuvent venir vous rejoindre.
On les attend, elles sont
là. Quand les matchs?
Alors les matchs c'est le samedi, mais les entraînements c'est le mercredi de 13h30 à 15h, et le vendredi de 18h30 à 19h30.
C'est une approche différente, le foot féminin, dans la façon de préparer.
Tout à fait, parce qu'en fait, elles sont en moins de 13 ans, mais elles sont débutantes. Il faut leur apprendre les bases. Et puis, c'est agréable parce qu'elles ont soif. D'apprendre.
C'est ce qu'on dit,
Et tout ce que je leur demande, elles le font. Il n'y a personne qui.
C'est un football plus technique, moins physique, au départ.
Physique et technique. Parce qu'on se rend compte que quand on rencontre une équipe en face où les filles, elles, jouent ensemble depuis 2-3 ans, elles sont physiques et techniques. Et dans mon équipe, j'ai 2-3 filles qui ont déjà pratiqué avant et qui sont très 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 physiques, que je pourrais même mettre avec les garçons. Je suis sûr qu'il y a des garçons qui les suivraient pas. D'accord. Parce que du début à la fin, elles courent.
D'accord. C'est un problème ça, parce qu'à un moment, les clubs de foot féminin, on est obligé d'aller très loin pratiquer ce sport. Je crois qu'il y avait une équipe à Montigny, pas très loin.
Tout à fait. D'ailleurs, on a eu jusqu'à maintenant, on faisait le compte en revenant tout à l'heure, 6 filles qui ne peuvent pas jouer dans cette catégorie-là, qui sont venues nous voir ça. Chacune leur tour. Et maintenant, on a décidé de rester en contact avec, et que si elles sont assez pour l'année prochaine, pourquoi pas monter une équipe pour elles aussi, quoi.
Est-ce que vous êtes soucieux des rencontres d'après match, c'est-à-dire que vous faites souvent des soirées où vous allez souvent ensemble au resto ou ailleurs, parce que c'est important ça aussi de ne pas rentrer que chez soi après les matchs. Ça soude un groupe.
C'est important pour la cohésion.
Ça fédère un club.
C'est important pour la cohésion, donc effectivement pour créer des liens aussi entre joueurs, pour apprendre à se connaître les uns les autres. Notamment cet après-midi. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire.
On va refaire le match après ensemble autour d'une table, autour de voilà.
Aujourd'hui justement, donc c'est un dimanche, premier dimanche des vacances de la Toussaint. Donc il n'y a pas de match, il n'y a pas de rencontre ce week-end pour les seniors. On a organisé un petit match amical où on va se faire un petit match entre les deux équipes cet après-midi. Après ça, on fait un repas au club pour apprendre à se connaître un petit peu,
c'est important. C'est peut-être là parfois que les matchs se gagnent, quoi. C'est en dehors des entraînements. On rentre pas le sac en bandoulière.
Ça crée une certaine dynamique dans le groupe et c'est important.
Quelles sont les manifestations importantes dans une saison en dehors de votre championnat? Vous avez des tournois, des rendez-vous phares dans une année?
Oui, alors on a mis justement dès lundi, là, on a un stage sur la Toussaint pour les Benjamin et les 13 ans. Et on réitère un stage sur les vacances d'avril pour les plus petits, les débutants et les poussins, pardon. Autour de ces stages, on va travailler techniquement, tactiquement, un peu toutes les qualités qu'on a citées tout à l'heure, mais au-delà de ça, on va mettre en place, on va leur apprendre un petit peu des notions sur l'environnement, sur l'hygiène, sur l'alimentation, toutes ces notions qui peuvent être importantes et qui sont qu'on peut greffer au football, mais qui vont au-delà aussi.
Et des tournois de fin de saison aussi, peut-être ?
On a aussi des tournois de fin de saison. Alors là, on va en mettre donc 4, je crois, cette année. plus la journée du club. Donc la journée du club, c'est pour réunir tous les adhérents du club et les amis, les parents qui souhaitent venir participer. Et on fait des équipes, on fait un tournoi avec des équipes constituées de toutes les générations confondues, donc du débutant au CDM, voire plus. Et effectivement, c'est une journée qui tourne autour du plaisir, de la convivialité, une fois encore. Et on a d'autres tournois qu'on souhaite mettre en place, voire même un tournoi que nous souhaiterions mettre en place pour partir, nous, à l'étranger.
Ah oui.
Emmener nos jeunes faire un tournoi à l'étranger. C'est une expérience enrichissante et une expérience humaine importante à vivre, au-delà de l'aspect sportif. Autrement, on est en train de voir aussi pour mettre en place certains dispositifs, voire certaines actions en place, mais elles n'ont pas encore été définies.
Et le futsal, vous avez peut-être une demande aussi pour la pratique de ce genre de football ?
Alors, il se pourrait que le 26...
Il manque des gymnases aussi.
On a une demande sur la ville, mais pas par le biais du club. Les jeunes souhaiteraient mettre, de la ville de Coignard, souhaiteraient mettre une section futsal sur la ville et lancer un championnat. Et effectivement, c'est en plein développement, le futsal, c'est important. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un championnat aussi qui s'est lancé chez les jeunes. Et donc effectivement, je crois que c'est important de suivre un petit peu ce football diversifié. Et donc sur Coignard, je crois qu'il y a une forte demande, ça se fera notamment bientôt.
Oui, oh bah Monsieur Vesque, qui vient souvent nous parler du futsal, va s'occuper de tout cela. Voilà. Eh bien, écoutez, on va marquer un petit break musical et puis on va continuer à chausser les crampons avec donc le football club de Coignard. On y va. Allez, bah, nous sommes en direct donc pour la suite de cette émission Tribune Foot. Alors Pierre, on va tout savoir sur la 10e journée du championnat. Alors il y a un énorme événement aujourd'hui, c'est Classico. Il y avait Classico du rugby hier, hein, qui avait la victoire assez nette du Stade Toulousain au Stade de France contre le Stade Français. Aujourd'hui c'est Classico donc du foot, Marseille-Paris Saint-Germain. Et on va voir que c'est un match qui va revêtir encore une importance plus grande après les résultats d'hier, parce que si Marseille gagne ce soir, Marseille peut être leader du championnat.
Alors, on commence par Lyon qui a fait match nul 0-0 sur la pelouse d'Auxerre. Bordeaux a également obtenu un point à Nice.
Oui, Lorient... content par l'arbitrage. Hein.
Ouais.
C'est pas Antonetti qui... 2-2, hein, le match. Donc,
c'est ça.
Voilà.
Lorient s'est imposé 3-0 contre Nantes. Le Havre s'impose aussi face à Valenciennes 2-1.
Oui, victoire importante pour les Havrais.
Victoire importante. Quand accroche Lille 2-2, tout comme Le Mans à Rennes. Et pour finir, Toulouse et Monaco se sont aussi départagés par un match nul 0-0.
Un bien piètre match.
Ouais.
0-0. Pour ceux qui payent l'abonnement d'Orange, ils n'ont pas été gâtés.
C'est vrai.
Bon, ça, c'est autre chose.
Cet après-midi, trois matchs seront décalés, comme Nancy-Sochaux, Saint-Etienne-Grenoble. Et puis, bah, pour clôturer la journée, le fameux classico entre Marseille et Paris Saint-Germain.
Alors, on l'a dit, Lyon, pour l'instant, est en tête, mais Marseille peut prendre donc la tête du championnat ce soir.
Justement, au classement, ça donne Lyon toujours en tête, devant Marseille qui peut en gagnant face au PSG chipper la première place au Rodanien. Suivent trois équipes qui sont Le Mans, Bordeaux et Toulouse, et puis tout en bas de l'échelle, les relégables sont Le Havre, Valenciennes et Sochaux.
Oui, voilà. Les trois poursuivants là, Le Mans, Toulouse et puis Bordeaux, ils n'ont pas profité du football.
Non, ils n'ont pas profité.
De Lyon, ils ont fait aussi match nul.
Il
hein.
Bah, y a un petit trou qui peut se creuser entre Lyon et Marseille et ces trois équipes justement ce soir, si Marseille l'emporte.
Alors le championnat, naturellement c'est le sujet de conversation, hein, ça berce toutes les conversations. D'abord, vous le vivez comment ce championnat ? On dit que c'est pas un championnat très passionnant, qui est moyen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous qui êtes dans le milieu, vous qui êtes...
Je pense que cette année, c'est un championnat relativement intéressant.
Ah,
on
oui.
voit tout de suite que Lyon n'a pas pris 10 points d'avance par rapport à tout le monde. Donc ça va être intéressant.
Déjà l'année dernière, ça avait été intéressant. Lyon avait fait le doublé, paradoxalement, en ayant été un peu plus titillé que les fois précédentes. Quoi.
Et donc là, ça l'est encore plus cette année. Ouais. Et on espère que ça va continuer pour laisser un petit peu de compétition dans ce championnat qui, depuis 7 ans, est remporté systématiquement par Lyon. Donc
8,
tant mieux, mais 7, je crois.
Hein. Ouais, 7 ans, 7 années de suite, ouais. Vous avez une équipe fétiche ?
Le beau jeu.
Ah, c'est bon. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien.
Pas de la bonne promo.
C'est bien.
Mais écoutez, moi je pense que Lyon, pour la première fois depuis 7 ans, a peut-être vu un objectif un peu plus haut qui est la Ligue des Champions. Et que je pense qu'ils vont mettre tellement de force dans cette Ligue des Champions que pour une année ils vont lâcher le titre.
Ah, c'est possible, ouais, c'est possible.
Et je vois bien Marseille ou Bordeaux prendre le relais.
D'accord. C'est vrai que Puel, c'est plus un entraîneur quand même pour aller loin en Ligue des Champions que par rapport à l'Impérame. Enfin, ça, c'est une opinion personnelle.
On est bien d'accord.
Et puis,
Moi j'aime bien l'Impair, attention.
Oui, non,
il a fait de très très bonnes choses.
Absolument,
à
mais au niveau national, je ne suis pas certain
CFA.
Qu'il est capable oui, après, de gagner une Coupe d'Europe.
Bah écoutez, moi j'aime bien les équipes. Bon, je pense que Lyon va quand même s'en sortir parce que les cinq dernières années, enfin les cinq premiers titres ont été gagnés. On voyait toujours un coup de mou en janvier-février, donc à la reprise après la trêve hivernale. Là, je pense qu'ils vont encore. Ils vont bien creuser l'écart à partir de ce moment-là.
D'accord.
Après, j'aime beaucoup l'équipe du Mans.
Oui.
Qui m'impressionne parce
qu'il y a perdu beaucoup de joueurs, hein,
tous les départs qu'il y a eu et toutes les nouvelles recrues qui sont arrivées. Franchement,
c'est pas seulement d'ici, c'est à 2 heures. Hein, oui,
en plus, voilà. Non, très bon travail du recruteur. Mm-hmm. Ensuite, Grenoble,
il y a un beau derby aujourd'hui, hein. Saint-Etienne Grenoble, ça va être un sacré derby. Hein.
Avec de très bons joueurs comme Nassim Akrour et Sofiane Feghouli, et Laurent Batles, Daniel Morera.
Vous prenez du plaisir à voir les matchs sur Canal ou sur Orange?
Tout dépend en fait.
Hier, c'était pas terrible. Hein.
Hier, j'ai pas Canal, j'ai pas Orange.
Ouais, ouais. Moi non plus. Ouais.
J'ai pas Orange, mais quand je vois les 0-0 d'hier, ouais, effectivement, je suis bien content de pas avoir pris Orange. Maintenant, sur Canal Plus, ouais, il y a des très très bons matchs, c'est notamment en Ligue des Champions. Là, je vous lance un petit peu pour la Coupe d'Europe.
Ligue des Champions, c'est bien, c'est
bien. Non, il y a des très belles soirées sur Canal Plus et c'est professionnel. Enfin, professionnellement parlant, c'est agréable à regarder.
Le Classico, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on en parle de trop? Est-ce qu'on en fait trop sur ce match par rapport aux autres?
Parce que
c'est un match sur 38 finalement.
Ouais, mais il y a toujours cette rivalité entre Paris et Marseille. Il y en a, entre Madrid et Barcelone.
Ouais. Non, mais cette année c'est important parce que Marseille peut effectivement être première ce soir. Mais il y a des années où Marseille et Paris n'étaient pas très bien placés. C'était le match de l'année alors que ils jouaient la 7e ou la 8e place quoi.
C'est vrai que pour les deux équipes, ce match-là est très important. Maintenant, faut voir ce soir ce que ça va donner. C'est au Vélodrome. Marseille a perdu contre Eindhoven, donc il va falloir qu'ils se rattrapent. Ils sont à un point de Lyon. Ils vont vouloir vraiment s'arracher pour passer devant. Paris a joué aussi en Coupe d'Europe, mais elle a aligné l'équipe B. Donc, ils avaient tout misé aussi sur ce match-là. Donc, soit ça va être un match très, 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 très fermé et chacun va rester sur ses positions pour ne pas encaisser de but et pour jouer en contre-attaque. Soit ça va y aller et on va avoir des buts.
Mais c'est bien fait que Paris ait perdu 3-1. On ne met pas une équipe B en Coupe UEFA. Ça vous paraît logique, vous? C'est pas normal quand même. On joue une Coupe d'Europe, même pour un match championnat. 10 journée de championnat, mais pas une équipe B.
Faut voir dans la logique, parce qu'en fait, Paul Le Guen avait dit qu'il mettait l'équipe B parce qu'il y avait un jour en moins de récupération par rapport à Marseille. Ouais. Et comme ce match contre Marseille est très important au niveau des points et au niveau même du match que ça peut représenter, il me taquine, mon président.
Ouais, moi, je suis pas d'accord parce que en Espagne,
c'est ça le foot.
Et je finis, en fait, juste pour. Enfin, tout va dépendre, en fait. Si PSG gagne, ça veut dire que Paul Le Guen a eu raison de sacrifier un match de Coupe d'Europe, même si sur les 5, il y en a 3 qui passent. S'il perd, là, effectivement, c'est un poker.
On est qu'au deuxième tour de l'UEFA. Qu'est-ce que ça va être si Paris arrive en quart de finale?
C'est vrai que c'est embêtant pour les supporters qui sont partis à Schalke pour voir le match et qui ont vu qu'une équipe B. Qui n'est pas transcendante.
Moi, je suis pas d'accord du tout avec sa réflexion à Paul Le Guen, parce que en Espagne, en Italie, les grandes équipes jouent tous les 3 jours.
Absolument.
Et quand on s'appelle le PSG,
absolument,
on peut pas laisser partir un match comme ça par rapport au respect des 1200 supporters qui sont sont partis jusqu'à Schalke.
Mm-hmm. Pierre.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'entraîneur. Ça me choque aussi parce que moi, j'ai été supporter, j'ai suivi parfois le Paris Saint-Germain. Et quand je me déplace et que je vois qu'on aligne des joueurs qui n'ont pas le niveau face à Schalke, moi ça me gêne.
Ouais, et puis en plus, on ne veut pas une Coupe d'Europe. Quoi.
Je sais pas, peut-être Paul Le Guen.
Il va toute l'année pour y arriver.
Je sais pas, Paul Le Guen, il a peut-être pas peur, mais si ce soir il perd contre Marseille, il peut peut-être perdre sa place. Hein.
Bon, on verra.
C'est ce qu'on dit en tout cas.
On verra. Alors les Coupes d'Europe, justement. Alors, enfin, des victoires françaises, sauf Marseille et le Paris Saint-Germain.
on a eu une journée de
Ligue, fou, hein,
on a eu une journée de Ligue des Champions folle le premier mardi
hein.
5-3 la victoire d'Arsenal en Turquie 5-1 la victoire aussi de Villarreal 6-3 36 buts. C'est un record absolu.
Alors, Lyon qui est mené 2-0, qui revient à 2-2, qui est mené 3-2, qui revient à 3-3 et qui gagne le match donc 5-3, ça devient une spécialité. Il y avait eu le match contre la Fiorentina où Lyon était mené 2-0 et était revenu à 2-2. Ça devient une mauvaise blague quand même, hein, pour les équipes françaises de prendre prendre des buts sur coup de pied, arrêter d'être mené, ça devient un vrai mal français, quoi.
Bah, c'est vrai que là, c'est systématique. Ouais, hein, là, on voit ça en équipe de France, ouais, on voit ça.
Marseille, Lyon, des grosses erreurs défensives, quoi, des grosses erreurs de marquage.
Ouais. Est-ce que ça vient à l'entraînement où on les travaille pas? On a entendu parler des coups de pied arrêtés qui étaient pas travaillés à l'entraînement. Au niveau des formations à la DTN, je sais pas, parce que Rigueretz n'est pas du bastion DTN, donc je sais pas si c'est propre à la France ou si c'est vraiment ailleurs, en fait.
Oui, mais c'est vrai qu'on voit encore les deux grosses erreurs défensives de Marseille, de marquer en retard sur les ballons, quoi. C'est fou, quoi.
Ça arrive.
Ouais, enfin, c'est un peu trop Lyon aussi qui prend des erreurs. L'équipe de France, qu'est-ce que vous en pensez? Ça devient un mal français? C'est un manque de concentration? C'est un manque d'application? C'est quoi?
Oh bah c'est une erreur, tout simplement. Après, qui peut être peut-être à du doute, peut-être à... Ouais, ouais, sûrement du doute à ce moment-là, un manque de confiance en soi peut-être.
Oui,
mais
peut-être,
je pense que c'est des phases de jeu qui doivent travailler à l'entraînement de toute façon.
Hein, on le sait, on le répète, mais il n'empêche quand même qu'à chaque fois, les joueurs sont battus, sont devancés ou sont pas assez vigilants, quoi.
Bah, disons que pour Lyon, leur défense n'est pas force. Ils ont subi beaucoup de blessures.
Ouais.
Mensa, Réveillère, Claire, pardon.
Ouais.
Grosso, donc à chaque fois ça changeait.
Comment?
Non, Tigana, j'ai plus loin. Non, et puis il faut dire que Lyon n'a pas encaissé de but pendant les 8 premières journées de championnat. Donc, et après, en deux journées, ils en ont encaissé beaucoup.
Alors, Pierre, donc il y a eu cette victoire de Lyon.
Il y a eu la victoire de Lyon,
de Bordeaux.
Hein, de Bordeaux aussi, contre Cluj.
Donc pour l'instant, Bordeaux reste en course pour se qualifier. Lyon devrait sortir du groupe avec le Bayern. Par contre, Marseille, c'est fini. Hein, c'est fini, hein. Victoire tout à fait logique et méritée du PSV de 22-0.
Marseille, ils peuvent que viser l'UEFA. Hein. De toute façon, Guéretz, il l'a dit clairement après le match, hein, c'est fini. Même s'il gagne...
C'est incroyable comment cette équipe invaincue en championnat peut faire une telle prestation contre le PSV. Parce que c'est pas le fait de perdre, c'est la façon dont ils ont perdu. Quoi.
Ils ont fait un non-match au Pays-Bas. Mais c'est paradoxal parce que contre Valenciennes, ils gagnent 3-1, on dirait presque les mains dans les poches avec un Tem Ben Arfa tout feu tout flamme. Puis après, ils arrivent à Eindhoven, un match décisif, et puis ils sont absents. Alors je sais pas, c'est peut-être l'enjeu qui les a tétanisés, mais.
C'était pas une très grosse.
Eric Guéretz, normalement, c'est quelqu'un qui motive ses joueurs, Pape Diouf aussi, je comprends pas ce qui s'est passé. J'espère quand même qu'ils vont se rattraper au vélodrome contre Eindhoven cette fois-ci.
Ouais,
pour faire plaisir aux supporters.
C'est la beauté du foot, hein, c'est que la vérité du
jeu. La beauté, ou des fois, c'est moche aussi.
Non, mais tant mieux pour nous. Hein.
C'est vrai.
Alors, en UEFA, donc Paris, on l'a dit, hein, avec son équipe B, a été battu tout à fait logiquement.
En Allemagne.
Chaque 0-4, 3-1. Par contre, Nancy qui bat Feyenoord 3-0. Et puis Saint-Etienne qui a gardé cette fois cet enthousiasme qui va gagner donc 3-1 à Copenhague.
Ça a été une très belle victoire avec en plus des jolis buts à la clé de Dimitri Payet, justement. Je pense que c'est bien pour les Verts. Ça les relance en Coupe de l'UEFA, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en Coupe d'Europe, et puis j'espère qu'ils vont aller loin.
On les aura la semaine prochaine dans nos studios, les Verts. Attention. Ah ouais.
Non, même Nancy aussi, c'est une belle victoire face à Feyenoord, 3-0. C'est pas mal déjà. J'espère qu'il y aura un représentant quand même qui va aller loin, quart de finale, demi-finale, ça serait bien pour le foot français. Ça serait bien, et puis aussi pour l'indice UEFA.
D'accord. Donc, si je comprends bien, Daniel, cette année, il va falloir plus que jamais compter sur Lyon, ce fameux cap fatidique des huitièmes ou des quarts que Lyon n'arrive pas à franchir. Ça va être leur année.
C'est ce que je pense. Je pense que pour Claude Puel, c'est vraiment son objectif. Et c'est quelqu'un qui s'est transcendé ses joueurs. Mmh. Et il doit tellement les transcender pendant la Ligue des Champions qu'on l'a vu hier.
C'est une équipe qui a dû répondre, en tout cas. Hein. Enfin, peut-être pas en championnat actuellement, mais en Coupe d'Europe, oui, avec la Fiorentina, avec le Steaua, c'est une équipe qui sait répondre.
Voilà. Hein. Et je pense que c'est Claude Puel qui a fait la différence à chaque fois dans le vestiaire à la mi-temps. Mmh. Et que, par contre, ils ont pas l'effectif pour justement, trois jours après, contre Auxerre, aller prendre 3 points, quoi.
Mmh. Très brièvement, vous pourriez devenir un club pourvoyeur pour d'autres clubs d'Île-de-France. Ça peut se faire à l'avenir?
C'est envisagé, oui, c'est à voir. On pourrait le devenir, ouais, effectivement.
Parce qu'il y a des sortes de partenariats tacites entre certains clubs.
Du parrainage de certains clubs.
C'est ça.
Effectivement.
Ça se fait.
C'est des choses qui se font et effectivement, on n'est pas forcément contre. Donc à voir sur du long terme.
Un petit mot sur les sponsors aussi. Hein.
Oui, on est toujours.
J'appelle à des sponsors, vous êtes là pour ça. Hein.
On est toujours à la recherche de sponsors, effectivement, pour sponsoriser ou même être partenaire du Football Club des Cornières et de toutes les catégories qui sont représentées dans ce club. Alors, sponsor, effectivement, ça, on parle de finances, donc les financements de, pour financer le club et les différentes catégories.
C'est-à-dire payer les déplacements, les ballons, les jeux de maillots, éventuellement les survêtes, tout ça.
Ça peut être ça, pour organiser différents stages que l'on organise tout au long de l'année, les tournois éventuellement. Ça peut passer aussi par s'il y a des sociétés d'autobus qui nous écoutent. Ah oui. Qui veulent être partenaires du football club de Coignières en emmenant nos joueurs, par exemple, ça peut être.
Il y a deux sociétés par loi ici, il y a Rambouillet et Chevreuse.
En plus, donc ça peut être envisageable, donc de nous accompagner lors de nos déplacements. Ça peut être aussi lors de tournois qu'on pourra faire au cours de l'année. Mm-hmm. Donc après, on refuse rien. Je vous dis, on est à l'écoute de tout. On prend tout au sérieux et on fait ça pour, avant tout, les gamins, pour qu'ils puissent jouer au foot et qu'ils puissent s'amuser. Après, c'est sûr que si on a des équipes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est embêtant.
Très bien. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir été nos invités.
Merci à vous.
Donc, l'émission, elle est téléchargeable dès cet après-midi sur Internet, comme d'ailleurs les émissions des semaines précédentes. En tout cas, on a été ravis d'être avec vous ce matin. On a été ravis aussi de vous faire vivre cette belle matinée de sport, puisqu'on a eu les trophées de tennis Hervé et puis le Tour de France. La semaine prochaine, on aura un champion du monde de roller soccer, Pierre, qui sera dans nos studios. Et oui, le roller soccer, ça existe. Bon dimanche, bonne semaine. On vous laisse avec la Millionnelle maintenant pour
le programme.
Et puis, avec Radio Village et allez Coignières, effectivement.
Au revoir.
Au revoir.